Mesdames, messieurs, bonjour. Vous écoutez actuellement BPR, Budapest Radio. Je m'appelle Oliver G et je serai aujourd'hui votre technicien avec mon collègue Simon F. Derrière le micro, Leila Aydar et Audrey Furtel.
Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Audrey et je serai avec vous dans la première partie de l'émission. Vous écoutez le web radio BPR en direct du Salon européen de l'éducation réalisé par 6 élèves du lycée français de Budapest. Dans cette première partie, je vais vous rappeler ce qu'est l'AEFE et quel est son projet. Nous avons eu l'occasion de rencontrer M. Stéphane Polak, directeur d'école, qui nous a parlé de son expérience. Nos journalistes, Cécile et Léane, ont interviewé M. Bouchard, le directeur de l'AEFE, et M. Dali, le directeur de Neoptech. Le sigle AEFE signifie l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Celle-ci a été créée en 1990. Elle compte aujourd'hui 494 établissements dans le monde entier qui accueillent 336 000 élèves dans 136 pays. Son but est de scolariser les enfants français résidant hors de la France et les élèves étrangers qui veulent suivre un enseignement dans le système éducatif français. Nous avons interviewé M. Stéphane Polak, directeur d'école qui a enseigné en Algérie, Inde et Niger. Il nous explique les projets qu'il a menés.
Dans le lycée français à l'étranger, on a la chance de pouvoir mener à bien de nombreux projets pédagogiques ou simplement des projets événementiels. Je pense à, par exemple, la fête de la francophonie, où nous avions invité plus d'une vingtaine de pays francophones. Nous avions rassemblé plus de 1000 élèves et 1000 participants au lycée français de Delhi. Mais je pense également à des choses plus sympathiques comme les fêtes de Noël où on pouvait par exemple faire venir le Père Noël à dos de chameau ou en auto-rickshaw ou en vélo-rickshaw. Et ça, c'était très sympathique pour nos petits élèves de nos lycées français, mais aussi pour les grands.
Bonjour Léane.
Bonjour Audrey.
Alors, hier, vous avez rencontré M. Bouchard.
Alors oui, hier, nous avons eu l'opportunité de rencontrer M. Bouchard, qui est le directeur de l'AEFE depuis début février. Celui-ci nous a parlé de la dématérialisation de la correction des copies du bac. Nous écoutons son témoignage.
Jusqu'à présent, les copies papier étaient transmises un peu partout dans le monde à des correcteurs donc, qui ensuite examinaient les copies de façon traditionnelle. Maintenant, tout ça est scanné et envoyé à des enseignants qui peuvent être n'importe où dans le monde et qui se connectent sur le site et qui donc vont corriger les copies sur écran. Et donc, alors ça a plein d'avantages. C'est plus moderne, c'est plus pratique, puisque les enseignants font ça de chez eux, ils s'organisent comme ils le veulent. Ça va plus vite, puisque en quelques secondes, les copies sont scannées et envoyées n'importe où, alors qu'avant, il fallait que ça parte par courrier. Et donc, comme on est partout dans le monde, ça pouvait prendre beaucoup de temps. Ça coûte moins cher aussi, puisqu'il y a moins de frais de déplacement. Et puis, c'est plus sûr, parce que les copies ne peuvent pas se perdre, ce qui était toujours une possibilité quand elles partaient sous forme papier. Et alors, il y a un dernier avantage qui est sur le plan pédagogique. Les enseignants correcteurs peuvent plus échanger entre eux leurs analyses des copies. Ça permet une plus grande harmonisation des notes et des échanges entre les enseignants. Donc c'est une sorte de révolution tranquille de la façon dont les épreuves du bac vont être corrigé dans le réseau, et donc à partir de cette année, 100% des copies dans le réseau seront dématérialisées.
Combien de professeurs sont concernés par ce nouveau dispositif à peu près ?
Alors cette année, donc on atteint ça a commencé il y a quelques années, puis ça a été étendu progressivement aux différents pays. Donc cette année, on atteint les 100%, et 100% ça veut dire 30 000 candidats et 3 000 enseignants.
Tout à l'heure, on a pu entendre en vidéoconférence une session de formation, mais en quoi consistent ces sessions ?
Il s'agit à la fois pour la société qui a conçu le logiciel et puis pour les personnels de l'agence, les formateurs, d'expliquer comment ça marche à un certain nombre d'enseignants qui vont ensuite, une fois qu'ils auront vu comment le système fonctionne, bah, qui ensuite, dans chacun de leurs établissements, iront eux-mêmes former leurs collègues. Donc ce sont des sessions qui durent sur 2 jours, parce qu'en fait, c'est un système qui a été conçu pour être très simple à utiliser par tous les acteurs, et notamment par les correcteurs. C'était important parce que c'est un changement d'habitude de passer du papier à l'écran. Et la condition pour que ça marche, c'était que ce soit très, très facile à utiliser et très agréable, je dirais, à utiliser.
Maintenant, je vais donner la parole à Cécile, notre deuxième journaliste. Bonjour Cécile.
Bonjour Audrey.
Tu as rencontré hier Monsieur Dalias.
Oui, effectivement. Donc hier, nous avons interviewé Monsieur Dalias, qui est le directeur général de Neoptech, l'entreprise qui a conçu le scanner permettant la dématérialisation de la correction des copies du bac. Et donc, il nous a présenté le système numérique de ce scanner. Donc, écoutons-le.
Bonjour à tous. Nous sommes en direct du Salon de l'étudiant à Paris. Nous sommes donc en présence de Frédéric Dalias, le directeur général de Neoptech. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Nous avons donc quelques questions à vous poser. Donc, quelles sont les grandes lignes de fonctionnement de l'application Viatic ?
Alors, Viatic est une application qui a été créée il y a une dizaine d'années, qui est très mature aujourd'hui. Elle permet en fait de dématérialiser les copies d'examen. La numérisation des copies d'examen va apporter de la sécurité au niveau des copies. C'est-à-dire qu'auparavant, les correcteurs partaient avec leur paquet de copies pour les corriger. Et il pouvait arriver qu'un correcteur perde une copie ou se fasse voler des copies. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque les copies sont récupérées juste après l'examen et ensuite numérisées et envoyées dans le cloud. Lors de cette numérisation, les copies vont subir différents traitements. Nous allons prendre une empreinte numérique, nous allons les chiffrer et nous allons les anonymer immédiatement. Ce que va apporter également la solution, c'est de la communication entre les correcteurs et entre les responsables pédagogiques. Le responsable pédagogique pourra communiquer des informations de notation auprès des correcteurs, mais les correcteurs pourront également discuter entre eux ou discuter avec le responsable pédagogique, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
En quoi consiste une session de formation ?
Les formations se situent à 3 niveaux différents. Tout d'abord, nous allons former les responsables administratifs. Ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle le profil responsable pédagogique. Donc lui va subir une formation qui va lui donner l'accès en fait à une interface. Et via cette interface, il va pouvoir suivre l'avancement des corrections des copies. Mais il va également pouvoir suivre le niveau de notation. Et le responsable pédagogique pourra vérifier en fait que les correcteurs corrigent globalement de la même façon leur lot de copies.
Merci beaucoup. On a donc une dernière question pour vous. Quelle amélioration technique pourrait être proposée à l'avenir ?
On améliore l'ergonomie. C'est également l'amélioration de la correction sur les tablettes. Les tablettes n'ont pas la même interface qu'un écran d'ordinateur. Donc nous sommes en train de travailler l'ergonomie de cette partie-là.
Merci beaucoup les filles. Nous avons terminé la première partie de l'émission et avant d'écouter la deuxième partie animée par Leïla, écoutons We Used To de Taylor Adam. Merci pour votre attention.
We used to fall in love. by the water. Oh, we used to fall in love, tell each other stories. Now by the water. Down by the
et bienvenue à la web radio BPR. Je m'appelle Leïla et je serai votre animatrice pour la seconde partie de l'émission. Nous avons interrogé, dans le cadre d'un micro-trottoir, des élèves venant de Turin et des jeunes étudiants présents sur ce salon européen de l'éducation qui viennent chercher des renseignements pour mieux définir leur projet d'orientation. Nos deux journalistes, Cécile et Léane, ont également rencontré Véronique Champigny, chef de service de l'orientation, études supérieures de l'AEFE. Enfin, nous recevons aujourd'hui sur le plateau M. Fabien Gorzic, conseiller en orientation et enseignement supérieur, spécialisé PIC. Comme vous l'avez constaté, nous trouvons au salon de nombreuses personnes qui peuvent nous aider à avoir une idée plus précise quant à notre avenir, notre projet d'études. Mais que viennent chercher précisément ici les étudiants qui parcourent les allées? Nous leur avons demandé, dans un premier temps, ce qu'ils avaient motivé leur venue.
On a essayé de venir ici pour pouvoir compléter notre idée par rapport à notre projet dans le futur, pour compléter notre dossier APB, pour résoudre les questions qui pouvaient nous rester.
Je suis venu au Salon européen de l'orientation à Paris pour mon projet d'orientation.
En fait, on est venu pour un voyage pédagogique, pour visiter des universités, avoir une idée de ce qu'on voulait faire, pour voir des écoles préparatoires aussi. Et juste pour voir si ça nous aidera, si on aura l'envie de venir faire nos études à Paris.
Pour visiter des universités et s'enrichir, pour découvrir. Parce que pour la plupart des élèves, on ne vit pas en France. Il y en a qui ne sont jamais venus à Paris.
En fait, on est ici hein, dans le cadre du coup, de nos études, parce qu'on est tout en première littéraire. Et nos professeurs nous ont décidé de nous amener en fait, ici pour qu'on ait un peu des idées sur ce qu'on va faire l'année prochaine et sur ce qu'on ne veut pas faire non plus.
Donc, j'ai visité différents stands, donc d'écoles de commerce ou d'hôtellerie, pour m'informer. Et ce salon a été très utile, puisque j'ai découvert de nouvelles écoles.
Ça a été intéressant, mais pas trop productif parce que les idées étaient déjà assez claires sur ce que je vais faire après.
Bonjour Cécile et Léane.
Bonjour.
Vous avez donc hier interviewé Véronique Champigny.
Effectivement, Leïla, hier nous avons donc rencontré Madame Champigny, qui est la chef du service orientation et études supérieures de l'AEFE. Elle nous a donc parlé de la bourse d'excellence major. La voici.
Bonjour Madame, j'aimerais vous poser quelques questions à propos de la bourse d'excellence major. Donc pour commencer, en quoi consiste ce genre de bourse?
On attribue une bourse qui dure 5 ans à des élèves qui ont été sélectionnés par le biais d'une commission. Ces élèves sont des élèves étrangers qui ont été au départ présentés par leur chef d'établissement. Nous avons reçu l'an dernier 500 dossiers de demande de bourse excellence major. Il en a été retenu 200. Et ce sont donc des élèves qui ont fait le choix de venir étudier en France.
Quels sont les avantages pour ces élèves de bénéficier de la bourse d'excellence major ?
Alors, les avantages sont à plusieurs titres. Premier aspect, ce sont des élèves qui ont fait le choix de venir étudier en France, donc ils peuvent concrétiser ce souhait. C'est-à-dire que dans la mesure où ils ont été retenus à la bourse, ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages tels que déjà de toucher une bourse. Hein, il y a 3 taux de bourse, donc en fonction de leur niveau de revenu, ils auront une bourse plus ou moins élevée. Ensuite, ils auront une prise en charge de leur sécurité sociale et de leur mutuelle. Ils bénéficient de l'appellation boursier du gouvernement français. Et à ce titre, sont prioritaires pour obtenir un logement CROUS. Donc, nous essayons de leur faciliter l'aspect concret de l'arrivée en France pour leur permettre une bonne réussite de leurs études.
Est-ce que les binationaux peuvent prétendre à ces bourses ?
Seuls les élèves de nationalité étrangère peuvent prétendre à la bourse excellence major.
Est-ce qu'être boursier et étranger peut être un obstacle à certains moments dans l'intégration de ces élèves ?
Absolument pas, parce que ils sont étrangers, certes, mais enfin, ils ont passé un bac français. Ils arrivent des lycées français. Donc, ils connaissent parfaitement la culture française et ils sont tout à fait en mesure de s'adapter à un environnement de l'enseignement supérieur, d'autant qu'ils ont préparé tout ça. Puisqu'en amont, ils ont travaillé leur orientation et ils savent ce qu'ils viennent y faire.
Je vous remercie, madame, pour votre temps.
Je suis en direct avec Monsieur Gorzik. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Donc vous êtes conseiller en orientation et enseignement supérieur spécialisé TIC.
TIC, mais qu'est-ce que veut dire TIC?
C'est ce que j'allais vous demander.
TIC, technique de l'information et de la communication. Ce qui signifie que j'ai à la fois une spécialité sur l'orientation scolaire et je travaille notamment sur des applications numérique et dématérialisé au service de l'orientation scolaire des élèves dans les lycées français et collèges français dans le monde entier.
Donc au sein de votre service, comment les rôles se répartissent-ils entre les différents membres de l'équipe ?
Eh bien, mon service, le service orientation et enseignement supérieur, est un service de 9 personnes composé notamment de 4 conseillers en orientation dont je fais partie et composé pour l'autre partie de personnel gestionnaire du programme boursier excellence major dont on vient d'entendre Madame Champigny qui est chef de ce service là et Laurent Mété qui est l'adjoint de son service et également Madame Dubarry-Barbe qui est gestionnaire de ce programme.
Quelle est la spécificité de la mission de conseiller lorsqu'elle s'adresse à des élèves français de l'étranger ou étrangers?
Eh bien, la spécificité des questions d'orientation pour les élèves dans les collèges et les lycées français, et elle a cette particularité que vous êtes, vous, lycéens et collégiens, des élèves qui avez fait un choix pédagogique, vos parents ont fait un choix pédagogique d'inscription dans un système, dans un programme français, et vous êtes, si je regarde globalement l'ensemble des élèves scolarisés, 60% d'élèves du pays d'accueil ou d'un pays tiers, ne pas avoir spécialement choisi l'enseignement français. Vos parents ont peut-être choisi cette voie-là pour vous et vous avez cet enjeu, vous en tant qu'élève, en tout cas une grande partie d'entre vous, d'avoir suivi quelque chose de particulier, d'avoir vu une expérience scolaire particulière dans le pays où vous vivez. Et la question, c'est qu'effectivement, durant cette scolarité que vous allez rencontrer, vous allez vivre pendant 15 années dans un seul et même établissement, très souvent, vous allez être dans une école qui va vous faire rentrer de la petite section de la maternelle jusqu'à la classe de terminale, fait que vous avez une expérience très particulière par rapport aux élèves qui étudient sur le territoire français. Et comme on le dit souvent dans les établissements, les élèves n'ont pas de problème d'orientation. Certes, ils n'ont pas de problème d'affectation durant tout ce circuit de scolarité. Mais à la fin, sur la classe de terminale, quand on va passer son baccalauréat, ils vont avoir de très 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 grandes questions de stratégie de choix et de vœux. Et de vœux qui vont impliquer des réflexions sur 1, 2, 3, 4 pays différents. Et c'est là qu'il y a une vraie différence de réflexion sur l'orientation scolaire avec les élèves.
Et donc, comment préparez-vous les élèves à construire leur choix d'avenir ?
Cette réflexion sur les choix d'avenir, eh bien, c'est à la fois d'appliquer ce qui se passe dans les réformes du programme français côté France métropolitaine. C'est cette notion qui arrive depuis 2 années dans les établissements, ce qui s'appelait auparavant le parcours de découverte de métiers, découverte des métiers des formations. Ce parcours s'appelle Parcours Avenir à présent. Eh bien, c'est une activité qui va être proposée pour chaque élève de la 6e à la terminale, de découverte des métiers, découverte des formations, activité collective qui va s'associer au suivi et à l'accompagnement personnalisé qu'il y a dans chaque établissement, activité qui va aider les élèves et les jeunes à construire, à réfléchir à leurs compétences, à réfléchir à leurs intérêts personnels pour finalement inciter à cette construction entre ce que l'on fait en tant qu'élève durant sa scolarité et les intérêts qu'on commence à avoir pour des professions, les intérêts qu'on commence à avoir pour des formations, des endroits de formation.
J'ai entendu parler d'un PRIO. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez juste me dire qu'est-ce qu'un PRIO ?
Dans votre lycée, il y a un PRIO. Il y a un personnel ressources en information et orientation. Ces personnes-là sont des personnels professeurs, documentalistes ou même quelquefois proviseurs adjoints de l'établissement. Et ils sont nos points d'entrée en quelque sorte, nous conseillers, car ce sont des personnels avec qui nous sommes en contact régulier. Toutes les semaines, nous transmettons des informations spécifiques sur l'enseignement français. Nous formons ces personnels à la question de l'information sur les nouveautés de l'enseignement en France et notamment aussi sur les questions de suivi, d'accompagnement dans ces questions-là.
Vous avez travaillé aussi avec l'ONICEP. Oui. Donc, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots la nature de cette collaboration?
L'ONICEP, c'est l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. L'ONICEP est à quelques dizaines de mètres de nous, au moment où on se parle. Et c'est un organisme de l'éducation nationale française qui met à disposition des familles un ensemble de ressources et d'enquêtes sur le monde des métiers et tout le domaine de la formation, qu'elle soit depuis le collège jusqu'à l'enseignement supérieur et le doctorat, par exemple. Eh bien, l'AEFE a signé depuis, est en convention avec l'ONICEP depuis 6 années à présent, et elle met à disposition, l'ONICEP, cet office, met à disposition des ressources dématérialisées, notamment, pour aider les jeunes et les familles sur les questions d'orientation. Il y a par exemple un système qui s'appelle Mon Orientation en ligne, qui est une plateforme de réponse avec des conseillers d'orientation par chat, par mail ou même par téléphone qui peuvent répondre aux élèves du monde entier tous les jours de la semaine sur des questions personnelles et individuelles sur les métiers, les formations. Il y a également auprès de l'ONICEP une autre spécialité qui est un espace numérique de travail dédié à l'orientation qui s'appelle Folios et que nous installons dans les établissements depuis 5 années. Cet espace numérique de travail permet notamment de construire, de travailler, de déposer du travail collectif, comme je l'évoquais tout à l'heure sur le parcours à venir, au fil des années. C'est-à-dire que l'ONICEP met en lumière, met en support l'ensemble de ces questions sur l'orientation scolaire.
Merci beaucoup, ouais. Monsieur.
Il n'y a pas de quoi.
Donc, nous arrivons à la fin de notre émission et nous espérons que vous l'avez appréciée. Mes camarades et moi tenons à remercier vivement AEFE qui nous a permis de participer au projet Web Radio et de découvrir plus en avant le domaine des médias. Nous remercions également toute l'équipe présente sur le stand AEFE, Eric, notre formateur, et nos professeurs qui nous ont aidés à perfectionner notre maîtrise technique et le contenu de nos interventions.